vous le savez. Je voulais qu'on commence cette séance par un petit rappel de la séance précédente. Je ne vous rappelle pas nos règles, vous les connaissez. Je voulais que, simplement pour confirmer notre savoir concernant la deuxième séance, c'est-à-dire les femmes peintres au XVIe siècle, nous revoyions rapidement quelques œuvres, simplement pour, très simplement, encore une fois, hein, réviser les artistes que nous connaissons tous et que nous allons d'une seule et même voix identifier dans les œuvres que je vais vous montrer. J'ai failli mettre des œuvres que vous n'aviez pas vues pour mon essai d'air privé, mais finalement, non, je n'ai pas fait ça. J'ai décidé de mettre des œuvres que vous connaissez déjà et dont vous savez le nom des auteurs. Voilà. Par exemple, ici.
Anguissola.
Voilà, hein, Sophonisba Anguissola, bravo. Maintenant, vous êtes approprié cette peintre importante. Peut-être en est-il de même avec cet artiste qu'on confond volontiers avec la précédente, d'ailleurs.
Lavinia
Fontana, absolument. Nous sommes là devant un portrait de Lavinia Fontana. Quid de celle-ci ?
La Tintoretta.
La Tintoretta, absolument. La fille de Jacopo Robusti, hein, le Tintoret, surnommée encore une fois Tintoretta, Marietta Robusti.
Garzoni,
hein, nous avions eu, vous rappelez, la dernière fois l'occasion d'évoquer cette femme peintre italienne du XVIIe siècle. Oui, je disais XVIe, c'est XVIe et XVIIe, hein, bien sûr. Hein, donc Giovanna Garzoni, qui est, vous le savez, spécialisée dans ce type de peinture, généralement sur parchemin. Hein, nous l'avions vu la dernière fois. Et vous rappelez toutes de
Cirani,
hein, Elisabetta Cirani, que nous avions également l'occasion de voir. Voilà pour les Italiennes. Mais n'oublions pas les femmes du Nord. Hein. Van Emmessen, absolument. Katharina Van Emmessen, hein, nous en avions également parlé la dernière fois. Nous avions vu cette espèce de franchise, hein, de la réalisation. Et là, bien sûr,
Clara
Peters. Hein, évidemment, la nature mortiste que vous connaissez tous. Bravo, hein, sans faute.
Hein.
Si c'était le jeu de la fortune, vous seriez tous fort riches.
Oui.
Et c'est vrai, là c'est un peu plus simple, mais là il s'agissait tranquillement de s'échauffer, n'est-ce pas ? Et alors là, voilà, Judith Lester, bien sûr, hein, notre auteur de bamboche préféré, n'est-ce pas ? Et là,
Louise
Moyon, absolument, hein, notre nature mortiste bien connue. Et là,
Chéron,
hein. Madame Chéron, effectivement, hein, la première femme reçue à l'Académie, nous en avions parlé la dernière fois. Ah, plus
l'anglaise,
compliqué peut-être. C'est ça, Mary Beale,
Beale.
Hein, notre anglaise. Hein. Et nous terminerons évidemment par notre fameuse Josefa de Óbidos, hein, la fameuse hispano-portugaise avec ses magnifiques et sobres et rudes natures mortes. Bien. Voilà, nous avons confirmé nos connaissances, hein, concernant les 16 et 17e siècles. Je voulais simplement, j'avais pensé d'abord que nous verrions ça la fois dernière, et finalement on n'a pas eu le temps. C'est donc à cette séance que nous réservons ce travail. Je voulais qu'on regarde un peu plus près Artemisia Gentileschi, hein, qui est peut-être la plus célèbre des femmes peintres en Europe au XVIIe siècle. Et je voulais simplement que nous regardions un certain nombre des œuvres d'Artemisia. Je vous rappelle qu'elle naît à Rome en 1593, qu'elle meurt à Naples au milieu du XVIIe siècle. C'est une femme qui a eu une carrière très, très riche en événements. Hein. Elle appartient à une famille de peintres. Hein. Peut-être saviez-vous que son père était peintre. Hein. D'où le fait que, naturellement, elle-même est devenue peintre. Elle a connu une carrière qui l'a menée un petit peu partout, d'ailleurs, jusqu'en Angleterre, du reste. Ça a été une femme célèbre en son temps, qui a eu d'ailleurs une vie un peu difficile, hein, puisqu'elle a été, en effet, un temps, l'aide d'un peintre qui, semble-t-il, la violer, abuser d'elle, d'où évidemment certaines difficultés que peut-être on retrouvera d'ailleurs dans un certain nombre des peintures que nous allons voir. Hein. Donc, pardon ?
Il y a eu un procès ?
Absolument, il y a eu un procès tonitruant, hein, très, très, très important. Voilà, donc peut-être avez-vous, il y a eu un film sur le
Canadien.
Il y a
eu un bouquin.
Alors, ce que je voulais simplement, c'est peut-être que l'on regarde un certain nombre d'œuvres d'elle, dans le but d'abord de voir de quoi il s'agit. Ça nous permettra finalement de mieux comprendre le travail de cet artiste qui est peut-être, encore une fois, la plus célèbre hein, pour les 16e et 17e siècle des femmes peintres européennes du temps, et de voir décidément quel est à la fois le répertoire de Artemisia, mais quelle est également sa manière de peindre. Comment travaille-t-elle, finalement ? C'est un peu les deux questions que j'aimerais qu'on se pose en voyant quelques-unes des toiles qui sont les siennes. Commençons par cela. De quoi s'agit-il, à votre avis ? Qu'est-ce que c'est que ce tableau-là ? Alors voilà, c'est les deux choses. Hein. C'est-à-dire, c'est à la fois un autoportrait, effectivement. Vous avez là Artemisia qui se représente elle-même en tant que peintre. Mais c'est également une peinture dans laquelle on voit, en tout cas, en général, une allégorie de la peinture. Mais vous vous rappelez, on a déjà vu cette thématique-là. Hein. La dernière fois, notamment, j'ai eu l'occasion de vous en montrer. Hein. Donc c'est finalement une sorte de double peinture dans laquelle Artemisia se montre elle-même, mais en même temps, par elle-même, hein, montre, personnifie la peinture avec un grand P. Autre œuvre que je voudrais vous montrer, celle-ci. Voilà. Suzanne et Vieillard. Vous pouvez peut-être nous rappeler l'épisode. Suzanne va au bain. Voilà, il y a deux voyeurs, hein, lubriques. Hein. Et qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'effectivement, elle est surprise par ces deux personnages désagréables, n'est-ce pas, qui veulent abuser d'elle, mais c'est très clair. Hein. Et que va-t-il se passer ?
Il l'accuse à tort.
Pardon ?
Il l'accuse à tort.
Voilà, ils vont effectivement accuser, puisque elle va, comme vous le voyez, elle va refuser de se soumettre à la lubricité de ces deux personnages. Alors, pour se venger, ils vont l'accuser, la faire accuser, d'avoir cherché à les séduire, n'est-ce pas, comme une vulgaire fille des rues. Hein, voilà. Elle va donc être jugée, ça va assez mal se passer. Et quelle va être finalement la conclusion de cette affaire ?
Eh bien, que ce sont deux menteurs.
Exactement. Hein. Vous savez qui va établir d'ailleurs ça ?
Le juge.
Quelqu'un va également intervenir le prophète Daniel. Hein. Le prophète Daniel, oui, encore jeune d'ailleurs, hein, qui va en fait, alors même qu'on conduit Artemisia, alors je ne sais plus si c'est dans sa prison ou au supplice, hein, on va. Daniel va. Pardon. Suzanne.
C'est...
Oui, elle a jamais eu cette chose. Comme ça. Hein. Alors qu'on conduit Suzanne, je crois que c'est en prison, Daniel va intervenir et va, en posant des questions devant la foule aux vieillards, les confondre.
Il demande sous quel arbre ils l'ont vu.
Voilà, ça doit être ça.
C'est ça, quel arbre.
Absolument, tout à fait.
Comme ils ne sont pas ensemble, il y en a un qui dit un chêne, l'autre qui dit un serpent.
Exactement, absolument. Hein. Donc finalement, ce qui prouve qu'ils ont menti, et finalement, Artemisia. Suzanne est blanchie et les deux vierges sont confondues et vont subir le sort qui allait être réservé à Suzanne. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez d'ailleurs sur cette peinture d'Artemisia Gentileschi qui représente Suzanne et les vieillards ? On a vu qu'il y avait le sujet. Sujet, il y avait de quoi d'ailleurs ?
Il y en a un qui est vieux, mais l'autre, il a
de quoi s'est tiré, finalement, le sujet de
la Bible.
De la Bible, hein, c'est un sujet biblique, hein, Ancien Testament. Qu'est-ce que vous diriez maintenant sur le style, la manière de peindre dans cette œuvre ? Pardon ? D'une certaine manière, oui, on pourrait y voir une œuvre qui rappelle beaucoup hein, les tableaux de la Renaissance tardive, hein, absolument. Et peut-être par rapport à la peinture précédente, par ailleurs, ou éventuellement... La peinture suivante que vous voyez là, sur laquelle on va travailler ensuite. Voilà, zut, évidemment, comme d'habitude, voilà. Oui, qu'est-ce que vous verriez donc comme comme différence. Cette peinture-là, dites-moi quelle est sa spécificité par rapport à la précédente ou la suivante.
Oui, c'est clair.
Voilà. C'est ça, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus colorée. On est là devant une œuvre qui est finalement assez tôt hein, dans la carrière d'Artemisia Gentileschi, qui où elle travaille effectivement dans l'esprit de la Renaissance tardive. Hein,
17
d'une manière,
ans
pardon
17 ans.
Oui, oui, elle était très jeune quand elle a fait cette œuvre-là. Oh, généralement, on entre dans les ateliers très, très, très tôt. Hein. Très tôt, très tôt. Hein. Ah oui, oui. Et donc, elle est tout à fait capable, très jeune, de faire des tableaux de cette trempe. Hein. On est parfois surpris hein, de la qualité des œuvres d'art très tôt. Pardon.
Excusez-moi, c'était avant ou après ton gueule
Je ne saurais pas vous dire. C'est avant. Je ne saurais pas vous dire. Je ne sais plus précisément quel est le moment. En tout cas, on pourrait y voir une allusion. Hein.
En tous les cas, il semblerait que ce soit après, parce que les deux vieillards ne sont pas deux vieillards. Il y a un vieillard et un homme plus jeune.
Oui. Dans ici. Il a l'air, oui, il a l'air un peu plus, oui, oui.
Il y en a un qui fait moins vieillard que l'autre.
Après tout, le mot vieillard est peut-être interprétable de différentes manières, je dirais. Il y a des jours, je me trouve assez vieillard moi-même, par exemple. Je ne sais pas, il faudra qu'on regarde ça. Hein. Alors, l'œuvre suivante, vous la connaissez sans doute. Hein. J'ai déjà, je crois, eu l'occasion de vous la montrer au niveau de la première séance. Bon, vous connaissez quel est le sujet. Hein. Hein, voilà. Hein. Là aussi, peut-être vous pouvez me rappeler le thème, le sujet. Tiré de quoi d'abord ? De la Bible aussi. Hein. Et donc, il se passe quoi précisément ? Voilà, c'est effectivement un général assyrien, oui, qui s'appelle donc Holoferne. Hein. Et pourquoi cette femme va-t-elle ainsi, si brutalement d'ailleurs, tuer Holoferne ?
Pour épargner son peuple.
Parce que Holoferne, qu'est-ce qu'il voulait faire ?
Eh bien, il voulait envahir et conquérir.
Voilà.
Je ne sais plus le nom.
Bah, c'est une des tribus du peuple juif. Hein. Et donc, effectivement, Judith va entrer dans le camp de Holoferne, hein, va séduire Holoferne, général de Nabucodonosor, et va, dans son sommeil, réussir à le décapiter. Et elle va, nuitamment, hein, revenir avec sa servante pour ramener la tête d'Holoferne dans son camp, si j'ose dire. Et au matin, quand les soldats d'Holoferne se réveillent, que le camp s'ébroue, qu'on entre dans le camp d'Holoferne et qu'on voit Holoferne décapité, n'est-ce pas, et la tête partie, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose, enfin une malédiction. Enfin, et les troupes assyriennes vont lever le siège. Hein, donc Judith apparaît comme une sorte de... non pas comme une sorte, elle apparaît comme une héroïne biblique. Hein. C'est une des grandes héroïnes de la Bible. Voilà. Donc c'est effectivement Judith Holoferne qui est ici représentée. Là, on aurait envie de dire que c'est plutôt après le viol. Hein,
pour oui, des ça, raisons, ça. Hein. On dit la plupart du temps que c'est ça qui est la référence.
C'est ça. Alors, on va d'ailleurs en reparler, vous allez voir pourquoi de ce tableau. Stylistiquement, vous diriez quoi, là ? Notamment par rapport à l'œuvre précédente.
Non, très
voilà, là, effectivement, très caravagesque. Et si on voulait définir ce que c'est que ce travail caravagesque, vous diriez quoi ?
Les couleurs
donc sombre, effectivement. Est-ce que c'est que sombre ?
Non, clair, voilà. La lumière.
C'est ça. Hein. Sombre et clair, c'est clair-obscur. Hein. Il y a du sombre et de l'éclairé. Un peu comme dans cette salle, d'ailleurs. Très caravagesque, à l'instant. Avec ce rayon de lumière qui entre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Qu'est-ce qui, dans une œuvre comme ça, définit cette manière caravagesque ? Le clair-obscur, mais il y a peut-être d'autres choses aussi.
Les gestes. Les mouvements.
Les gestes, qu'est-ce que...
Les gestes qui sont...
La réalisation du
réalisme. Oui, voilà, le réalisme, effectivement. Hein. C'est-à-dire qu'on a là quelque chose qui est vraiment très réaliste, on ne nous épargne rien, hein, entre les jets de sang de l'homme qu'on est en train d'égorger, hein, et l'espèce de conviction, mais un peu dégoûtée, de Judith qui est en train pourtant de couper le cou de la femme, comme si elle coupait du saucisson. Enfin, c'est... Enfin, il y a vraiment quelque chose de d'en effet très réaliste. Enfin, j'ai jamais assisté à ce genre de scène en réalité, mais a priori, on est quand même dans quelque chose de très très réaliste, hein, de très véritable. Hein. Pardon. Oui, c'est ça. Hein, alors, on ne nous épargne aucune goutte de sang et aucun jet de sang sur les dents. Enfin. Donc, effectivement, on pourrait peut-être définir ce style caravagesque comme à la fois un travail très clair, obscur, et comme un travail où le réalisme est là de manière extrêmement crue et brutale. Hein. On ne nous épargne rien, d'une certaine manière. Par parenthèse, vous voyez que Artemisia a fait plusieurs Judith et Holofernes. Hein. Voilà exactement la même composition, mais faite un peu plus tard. Hein. Et vous voyez que c'est quasiment la même. Hein. Pardon, décidément, ça, je n'y arrive pas jamais. Non, ben c'est pas ça. Oh là là, c'est pas du tout ça. Voilà. C'est ça. Hein. Voilà. Donc là, c'est la. Et voilà donc celle-là. Vous voyez qu'on est vraiment sur la même composition. Oui, il y a quelques petites différences. Hein. Ici, on est dans quelque chose de plus resserré. Et là, voilà, le cadrage n'est pas tout à fait le même. Là, c'est plus aéré. Enfin, la force de la composition est assez équivalente. Alors ça, vous avez peut-être vu déjà la légende, puisque je l'ai passé par inadvertance. Pardon ? Voilà, c'est une sorte d'allégorie de la musique. Mais c'est autre chose aussi. Alors, elle tient effectivement à luth. Oui. Mais au-delà de cette dimension allégorique, cette évocation de la musique avec un grand M, comme on avait tout à l'heure la peinture avec un grand P, ce tableau, c'est quoi d'autre ?
Mais c'est un autoportrait quand même en musicienne.
C'est ça. C'est un autoportrait en musicienne. Vous rappelez, on a déjà vu ça. Et déjà vu que certaines artistes, rappelez-vous, notamment Lavinia Fontana, si ma mémoire est bonne, hein, on a vu Lavinia Fontana, et d'ailleurs Marietta Robusti, je crois aussi. Hein, voilà, hein, avec un clavicorde. Enfin bref, l'autre jour, on voyait également une femme peintre avec une harpe derrière. Vous vous rappelez ? C'est-à-dire qu'il y a l'idée de la communion des arts. Hein, donc, on a là devant Artemisia, mais qui est donc une artiste, mais qui conjugue les arts. Elle ne se représente pas forcément que en peintre, mais aussi en musicienne. Hein. Elle est une sorte de Parnasse à elle-même, hein, l'assemblée des muses, d'une certaine manière. Et ça.
Mais encore, c'est la suite.
Bah oui,
et voilà.
Parce qu'elle a tête.
Voilà, c'est après. Vous avez
il y a
deux...
le poignard.
C'est ça. Vous avez deux niveaux, n'est-ce pas ? Une Judith et sa servante. Alors cette fois, en offert, il n'y en a plus qu'un morceau. C'est la tête qui est dans le poignard. Mais c'est encore cette thématique de Judith et Holofernes. Là, on est effectivement un peu plus tard, quand Judith et sa servante rentrent dans le camp. Hein. Voilà, elles se retournent pour voir si peut-être personne ne les poursuit. En tout cas, c'est la suite. Hein. Vous voyez que ce thème-là, et je ne vous les passe pas toutes, hein, elle l'a énormément travaillé. Alors, on y a vu, évidemment, hein, une volonté vengeresse hein, de couper la tête, pour ne pas dire autre chose, à ce sexe qui l'a, n'est-ce pas, tant malmené. Hein. Et ça ?
Danaé.
Danaé, absolument. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire de Danaé ? La pluie d'or. La pluie d'or, hein. Donc vous connaissez l'histoire, hein. Danaé est qui d'ailleurs ? Bon, simplement pour la situer vaguement, quoi. C'est une figure biblique, c'est...
Non.
Mythologique, hein. C'est donc une figure mythologique. Et qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi ? Voilà, Zeus. C'est ça, hein. Zeus, Jupiter, était fort amoureux de Danaé, d'ailleurs de qui n'est-il pas tombé amoureux, et ne pouvant la posséder, il a décidé de se jonger en pluie d'or, et ainsi il a pu pénétrer, n'est-ce pas, dans Danaé. Vous voyez là, la pluie d'or qui tombe, vous la devinez, parce qu'hélas, il ne fait pas très très noir. Et vous voyez à l'arrière, la servante, qu'est-ce qu'elle fait la servante ? Voilà. Elle essaie d'empêcher la pluie d'or d'entrer à l'intérieur de la belle courtisane. Voilà. Donc très belle composition d'Anaï. Et là,
la tiens, beau drapé.
Ouais.
Elle n'a pas l'air heureuse.
Hein. Eh non, on sent... Oui, il se passe quelque chose, enfin. Hein, elle n'est pas... Et pas, c'est pas une figure très sereine, donc non, il y a quelque chose. Pardon ? C'est Sainte Madeleine, effectivement. Hein, effectivement. C'est Sainte Madeleine. Alors pourquoi est-ce qu'elle peut être un peu comme ça, pas très sereine ? Sainte Madeleine, je vous rappelle, est une figure complexe, hein, parce que c'est une figure qui est faite de plusieurs figures. Hein. En fait, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs figures de Madeleine qu'on a plus ou moins rendues cohérentes en les mettant dans une seule et même figure. Hein. Mais en fait, il y a plusieurs figures de Sainte Madeleine qui, décidément, vont aboutir à une sorte de silhouette unique. Mais Sainte Madeleine, qu'est-ce qui lui arrive, là ? Pardon, elle est... Oui, et alors qu'est-ce qui lui arrive là ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle pense ?
Elle regrette peut-être sa prostitution.
Voilà, c'est ça. C'est Sainte Madeleine est en effet une prostituée, et là, elle est en train, n'est-ce pas, de se convertir. C'est-à-dire que elle est en train encore d'hésiter, hein, de savoir si elle va poursuivre dans sa vie terrestre, où elle a de belles robes et de beaux bijoux. On imagine qu'elle met la main sur quelques coffrets à bijoux remplis de merveilles pour se parer comme une almée, n'est-ce pas, hein, mais où alors va-t-elle, n'est-ce pas, laisser tomber tout ça et se confondre dans la passion du Christ, cette passion nouvelle. Hein. C'est finalement toutes les interrogations qui parcourent ce personnage. Hein. Voilà, c'est l'idée de cette conversion de Marie-Madeleine. Hein. Et ça, cette puissante silhouette-là. Alors, je suis désolé, on est de nouveau un peu gêné par la lumière du jour, mais
la
quand même.
La poignard dans la main.
Oui, elle tient un poignard dans sa main.
Et c'est une femme costaud. Elle veut se couper le sein.
Non, il faut tuer simplement.
Ah, ça peut être une Amazone qui se coupe le sein, parce que vous savez que les Amazones, si vous coupez un sein, vont plus pouvoir tirer à l'arc. Hein. Ça n'est pas une Amazone.
Mais on dirait qu'elle va se le couper quand même.
On dirait qu'elle va. En tout cas, il va se passer quelque chose. Qu'elle va se poignarder. Le couteau, oui.
Qu'elle va se poignarder.
Alors, on pourrait penser que ce peut être la cuisse, comme la semaine dernière, n'est-ce pas, vous rappelez ?
Lucrèce.
Voilà, c'est Lucrèce. Hein. C'est Lucrèce se poignardant. Vous pouvez nous dire deux mots sur l'histoire de Lucrèce, peut-être ? Alors voilà, c'est dans le passé mythique de la Rome antique, enfin avant même que Rome n'existât, hein, Lucrèce va être en fait violée par Tarquin, qui est un roi prussien, hein, Tarquin et Lucrèce, hein, Lucrèce, pour ne pas être déshonorée, va préférer se tuer plutôt que continuer à vivre ayant été violée, si vous voulez. Hein. Là aussi, il y a du vécu chez Artémisia, son petit. Hein. Voilà, donc vous voyez qu'elle est en train de s'écarter de sein pour mieux pénétrer son poignard. C'est donc une scène. Lucrèce apparaît évidemment, hein, dans la lecture que l'on a de l'Antiquité, comme une femme forte, une sorte d'héroïne historique. Hein. Voilà donc cette Lucrèce d'Artemisia Gentileschi. Et ça. Ah, elle en veut un peu aux hommes. Hein. Il y a de quoi d'ailleurs. Hein. Non, pas en fait. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Une Judith encore ?
Non.
Qu'est-ce qui se passe là ?
Pardon ?
Qu'est-ce qui est en train de se passer là ?
C'est en train de lui enfoncer un clou dans la gueule.
C'est ça. Hein ? Il y a une femme qui est en train d'enfoncer un clou dans la tempe de la personne qui est couchée au premier plan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pardon ? C'est encore biblique. C'est encore biblique. Vous connaissez cette histoire-là ? Non ?
Pas du tout.
Alors, c'est précisément l'histoire de Yaël ou Jaël et Sisera. C'est une histoire moins connue que celle de Judith, mais en gros, c'est la même. Hein. C'est de nouveau Jaël, n'est-ce pas, qui doit... c'est un soldat, n'est-ce pas ? D'ailleurs, vous voyez qu'il a un habit de soldat, vraiment une cuirasse, hein. Sisera va séduire Jaël. Jaël était dans une mauvaise passe, il doit se cacher, il fait partie des ennemis de la tribu d'Israël à laquelle appartient Sisera, qui va réussir à l'attirer dans sa tente, et alors qu'il est épuisé et qu'il dort dans sa tente, elle va le tuer de cette manière, en lui enfonçant un clou dans la tempe. C'est le même genre d'histoire que
du temple. C'est dans le cou, c'est pas dans la tempe.
Non, c'est dans le temporal.
C'est dans la tempe. Hein. Et d'ailleurs, on voit quelquefois des tableaux où on voit Jaël avec un gros clou dans la tempe. C'est pas très bien. Enfin, voilà.
Oui, mais
c'est dans la tempe. Voilà. Et quand on plante un clou. Quoi, enfin. Et voilà. Donc c'est vraiment une autre héroïne. Décidément, c'est un peu l'autre Judith. Hein. À nouveau, hein, ce type de représentation résonne avec les déboires d'Artémisia. Et ça. Pardon. Beaucoup de nus, absolument. Oui, oui, oui. Oui, Eros. Psyché. Ça pourrait être Eros et Psyché, effectivement. Mais si c'était Eros et Psyché, ce serait plutôt dans l'autre sens. Ce serait plutôt Eros qui dort et Psyché qui s'éveille. Parce que vous savez que Psyché ne devait pas voir son mari. Hein, et un jour, n'y tenant plus, puisqu'il venait, hein, Eros venait toutes les nuits rejoindre Psyché, mais il faisait nuit, donc elle ne le voyait jamais. C'était un peu frustrant. Hein. Et une nuit, Psyché décide d'aller au-delà de l'interdit. Elle allume une lampe et elle voit son époux et elle le perd au même moment. Bien. En gros, c'est ça, mais elle le retrouvera. Ça dépend des versions. Bien. Là, donc, c'est l'inverse, parce que c'est elle qui dort et lui qui ne dort pas. Alors, ce serait quoi, alors, cette femme au premier plan ? Voilà, c'est Vénus, tout bêtement. On a droit à Vénus et l'amour Vulcain, Cupidon, hein, Vulcain est le mari de Vénus. Donc voilà, tout simplement une représentation de Vénus. Donc, vous voyez, il n'y a pas que des héroïnes en train de décapiter ou de clouer leurs victimes. Il y a des choses un peu plus légères chez Artémisia. Enfin, pas toujours. Ça, c'est quoi ?
Iphigénie.
Pardon ?
Iphigénie.
Ça pourrait,
effectivement. Dans la Bible...
Oui. Oui, c'est ça.
L'autre pièce de Racine,
ouais,
pour les dames, pour les demoiselles de Saint-Cyr.
C'est ça.
Esther.
Esther. C'est la scène de l'évanouissement d'Esther. Vous Esther. Savez ce qui se passe là ? Donc c'est tiré de quoi ça ? De quelle
Ben de la Bible aussi.
De la Bible aussi. Hein. C'est donc également Esther, une grande figure biblique. Hein. Sisera. Judith, Esther, autant de grandes héroïnes bibliques. Hein, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là ? Donc, effectivement, à gauche, vous avez Esther, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Elle fait une drôle de tête. Elle s'évanouit. Hein. Elle s'évanouit. D'ailleurs, souvent, on appelle cette scène l'évanouissement d'Esther. Hein. Elle s'évanouit pourquoi ? Pardon ? Parce qu'elle voit le personnage qui est à droite. Qui est qui ?
Assuérus.
Assuérus. Hein. Assuérus, c'est le nom que la Bible donne à Xerxès. Hein. Xerxès, oui, c'est un des grands souverains perses. Hein. Voilà. Donc, Esther s'évanouit devant Assuérus, Xerxès. Hein. Et pourquoi ? Pardon ?
Ah non !
Alors, ça s'est pas trop mal passé entre eux. Voilà. Mais il y a quand même... Xerxès, c'est quand même le roi des rois. Hein. Alors, voilà. Elle a beau être la femme de Xerxès, parce qu'elle est elle est son épouse.
Hein. Mais elle est captive.
Alors, elle est...
Enfin...
Oui et non. C'est-à-dire que, à vrai dire, Xerxès avait une autre épouse qu'il va répudier parce qu'elle n'avait pas été dans le sens qu'il souhaitait. Enfin, bref. Et finalement, Xerxès va décider de prendre comme femme Esther. Hein. D'ailleurs, il va choisir dans toutes les figures qu'on va lui faire défiler devant lui, hein, il va décider de choisir Esther. Hein. Seulement, Esther, qui est d'ailleurs la nièce de Mardochée, Mardochée était le ministre de Xerxès. Hein. Et donc, Mardochée avait comme nièce Esther. Et Mardochée, je dirais, voyez d'un bon œil que Esther puisse devenir l'épouse de Xerxès, d'Assuérus. Hein. Et ça va se faire, c'est-à-dire qu'il va réussir à faire parer Esther, qui était très belle, hein, de mille atours, et Assuérus va décider de choisir Esther comme son épouse. Et il se trouve que Esther, alors qu'elle est l'épouse d'Assuérus, va dans le palais où mille coups bruissent en permanence, apprendre que Amant, qui est un autre courtisan proche, conseiller d'Assuérus, est en train, en secret, de fomenter un complot. Amant souhaite en effet détruire le peuple juif, hein, et l'éliminer complètement. Or Esther est juive, justement. Hein. Donc elle va décider, pour confondre Amant, devant Assuérus lui-même, d'aller voir Assuérus et de, j'allais dire, mettre en place quelque chose pour confondre Amant. Et la scène que vous voyez là, c'est le moment où Esther va voir Assuérus, qui est son mari, certes, mais qui, encore une fois, est une sorte de roi intouchable. Hein. Normalement, ce n'est pas Esther qui dit à Assuérus, dites donc, il faut que je vienne te voir, c'est Assuérus qui convoque son épouse. Hein. Dans ce sens-là, ça ne se fait pas. Mais elle ose le faire quand même, parce qu'elle a le peuple juif à sauver, c'est du boulot aussi. Hein. Donc elle le fait, mais elle est tellement impressionnée qu'elle s'évanouit au moment où elle pénètre là où Assuérus la rencontre. Voilà. Alors, par parenthèse, hein, tout va bien se terminer, parce qu'en fait, Esther, qui revient un peu, une fois que ses servantes l'ont remis en forme, hein, qui revient un peu à elle, va convier Assuérus et Amant à un très beau repas. Et durant ce repas, Esther, avec Amant à sa gauche, Assuérus à sa droite, ou l'inverse, va devant Xerxès confondre Amant en disant au roi, au grand roi, que son ministre est en train, dans son dos, de fomenter un complot contre les Juifs. Et ça, Xerxès ne va pas supporter et va finalement faire pendre Amant. Voilà. Donc, si vous voulez, Esther, elle est comme Sisera, elle est comme Holoferne, comme Judith. C'est-à-dire, c'est une des grandes héroïnes de la Bible qui sauve le peuple juif. Hein. Donc, c'est une, vraiment une très grande figure. Vous voyez comment hein, Artemisia Gentileschi représente vraiment toutes ces femmes fortes, hein, des héroïnes parfaites, hein, courageuses. Hein, là aussi, peut-être en résonance avec elle-même. Hein, mais quand bien même c'est une résonance avec elle-même, il faut savoir quand même que ces scènes-là sont très, très souvent présentées au XVIIe siècle, et même au XVIe. Hein, voilà. XVIe, XVIIe siècle, toutes ces grandes héroïnes sont très, très souvent... On pourrait faire un véritable catalogue. Et là... Oui, alors c'est une femme à sa toilette, mais laquelle ? Pardon ? C'est pas Esther.
Non.
Mais c'est une héroïne biblique. Une autre.
Celle que David va voir de sa terrasse.
Il va voir qui de sa terrasse ?
Bézabé.
C'est effectivement Bézabé. Donc vous connaissez la scène. Hein. David, effectivement... va, d'ailleurs vous le devinez là, sur, là-bas sur le balcon, hein, est en train de regarder le parc, et il voit la belle Bézabée qu'on est en train de bénir, n'est-ce pas ? Et il va tomber follement amoureux d'elle, tellement d'ailleurs qu'il va s'enquérir d'envoyer le mari Bézabée dans quelques conflits lointains où il va se faire tuer, ce qui va permettre à David d'approcher la belle Bézabée, dont d'ailleurs bientôt il aura un fils. Hein, voilà. Donc c'est cet épisode où on voit David en train de découvrir la belle Bézabée. Qu'est-ce que vous dit ce tableau par rapport au précédent ? Hein, parce qu'on a vu toute une série de tableaux très clair-obscur, caravagesque, très réaliste. Qu'est-ce que vous diriez ?
Pardon ? C'est dans un paysage.
C'est dans un paysage, oui. Et qu'est-ce que, justement, vous vous dites... Ah, mais... Ouais, je suis allé un peu trop vite. Qu'est-ce que vous dit ce paysage qui est derrière ?
C'est paisible.
Oui. Mais en termes de réalisation, dirais-je. Vous n'avez peut-être pas lu la notice, bravo. Autrement, vous diriez. Ben, je vous la montre, cette fois, pour savoir ce qu'il en est. Regardez. En fait, ce tableau est dû à Artemisia Gentileschi et à un autre peintre. C'est-à-dire qu'elle ne l'a pas fait seule. Artemisia, vous savez, a passé une partie de sa vie, elle y a terminé sa vie, à Naples, hein, et très souvent, autrefois, les artistes ne peignaient pas seuls. Ils peignaient en lien, en collaboration avec d'autres. Eh bien, ce tableau a été fait par Artemisia Gentileschi pour les figures et par Viviano Codazzi, qui est un artiste napolitain paysagiste, pour le paysage. Hein. Ce qui fait que les figures sont très artémisiesques. Le paysage n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant. Hein. Troisièmement, parce que ce n'est pas d'elle. Mais ça, ce genre de collaboration est très à la mode à cette période.
On a l'impression d'un changement de style, et c'est plus tard dans sa vie.
Oui, absolument. Alors, c'est effectivement plus tard. En fait, à la fin de sa vie, Artemisia Gentileschi va un peu, tempérer son pinceau, hein, par rapport à la grande époque qui est la plus connue, qui est l'époque très caravagesque, très rude, très jet de sang et tête coupée. Hein, voilà. Non pas qu'elle ne continuera pas, mais elle va un peu lever le pied, si j'ose dire. Hein. Et là, ça apparaît d'autant plus évident que, décidément, le fond n'est pas d'elle. Hein. Alors, mettez un fond brun et voilà, tout de suite, on retrouverait bien le travail de Gentileschi, mais vous avez raison, on est quand même là, dans une époque un peu plus tempérée, une dizaine d'années avant sa mort, hein, d'Artemisia, qui, voilà, vers la fin de sa carrière, dompte un peu une espèce de sauvagerie, hein, entre guillemets, qui est la sienne.
La servante qui est debout, là, derrière, est de... D'Artemisia.
C'est de l'Artemisia, les figures sont d'Artemisia.
Elle
n'a
pas le même éclairage et le même style que les autres.
Ben, elle est moins éclairée, peut-être, oui, effectivement. Elle est moins dans le coup de soleil, je veux dire. C'est vrai, absolument. Absolument. À la fin de sa vie, il y a chez Artemisia une sorte de. J'allais dire de grâce nouvelle, qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler l'Artemisia du départ. Vous vous rappelez de la Suzanne et les vieillards du départ, hein. On est là finalement dans quelque chose qui, à la fin de la vie de l'Artemisia, renoue un peu avec une sorte d'élégance. Ça vient aussi du fait que, vous savez, le caravagisme, bon, on trouve des artistes caravagés jusqu'à la fin du XVIIe, hein, mais ça a eu qu'un temps aussi. Hein. Et donc Artemisia a surfé sur cette vague, mais comme n'importe quel artiste, elle évolue. Et à la fin de sa vie, elle tempère un peu cette veine brutale, le clair obscur, etc., pour aller vers des choses un peu plus, entre guillemets, légères, et quelque part renouer avec cette élégance gracile du départ qu'on trouve effectivement ici, absolument. Alors voilà, je voulais vous montrer, je crois que c'était la dernière, oui, toutes ces œuvres d'Artemisia pour avoir dans l'œil, hein, un petit catalogue très rapide, il y en a d'autres, hein, des œuvres de cet artiste, et bien voir justement son évolution d'une part picturale, mais également quel doit être le répertoire, hein, de l'artiste en question. Alors, je voudrais également aujourd'hui que l'on aborde une autre thématique, qui est, parce qu'il faut quand même qu'on avance, hein, c'est la troisième séance, on en a encore deux, mais enfin, quand même, hein, je voudrais qu'on aborde le XVIIIe siècle. Hein. Alors, on va faire un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va aujourd'hui voir un certain nombre de choses que l'on va largement débroussailler, mais il est bien vraisemblable qu'au début de la séance prochaine, j'ai à vous reparler un peu, enfin, à vous refaire parler plutôt, du XVIIIe siècle. Hein. On va donc commencer aujourd'hui à regarder un certain nombre de choses, et j'aimerais dans un premier temps vous passer quelques diapositives rapidement, on reviendra dessus, pour déjà les avoir dans l'œil et essayer peut-être de dresser une sorte de portrait de la peinture de femmes dans l'Europe du XVIIIe siècle. Hein. Il y a une dizaine d'œuvres, et on va, à travers ces œuvres, essayer de voir quel est le faciès de la peinture de femmes dans cette Europe du XVIIIe siècle. Je vous remontre rapidement les œuvres en question, puis après on va les regarder toutes un peu plus tranquillement. Voilà. Alors, d'abord, ce regard furtif sur cette dizaine d'œuvres, je crois qu'il y en a 11, vous dit quoi? Qu'est-ce que vous retenez de ce rapide regard, là, très vite, hein, sur ces œuvres? Qu'est-ce qui peut, pour vous, caractériser ce que l'on vient de voir par rapport aux époques précédentes?
C'est plus coloré.
Plus léger, plus coloré, plus frais. Bon. Plus intime parfois, plus aimable. Oui, on n'a pas trop de têtes coupées et de clous dans les tempes. Hein. Plus pacifié. Oui. Alors, je crois effectivement que tous ces qualificatifs vont bien. On va peut-être maintenant regarder les œuvres un peu plus longuement et essayer de les revoir d'un peu plus près. Je vous les repasse rapidement, hein, pour qu'on les ait bien dans l'œil, puis on va revenir à la première. Alors là, qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette œuvre-là ? Au niveau du sujet, c'est pas très compliqué. Hein ? Bon, c'est un bouquet de fleurs. Au niveau de la manière dont le bouquet est réalisé, qu'est-ce que vous auriez à dire ? Qu'est-ce que cette œuvre, qui est donc, je vous rappelle, on verra de qui c'est après, mais je ne suis pas sûr que vous connaissiez l'auteur, qui est important, hein, mais pas forcément très connu. On a vu que les peintres femmes sont, comme par hasard, pas très connus. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce que vous auriez à dire au niveau de sa œuvre ? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur la peinture de son temps ? En l'occurrence, c'est une peinture faite par une femme.
Il n'y a pas les petites bestioles qu'il y a dans les autres.
Je pense qu'en cherchant bien. C'est, pardon ?
C'est précis.
Fourni, équilibré, précis. Hein, précis. Voilà, très équilibré, très coloré, très précis. C'est-à-dire qu'on a là vraiment quelque chose qui est d'une extrême précision, effectivement. Hein. C'est-à-dire qu'on peut, à vrai dire, et les botanistes ne se sont pas privés, hein, on peut vraiment déterminer la nature de toutes les fleurs qui sont ici présentées. Alors, le but de ce genre d'œuvre, c'était quoi ? Qu'est-ce que c'est que le but de ça ?
Oh, le décor.
Le décor, oui. Et ce décor, si précisément réalisé, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte finalement sur son auteur ou son temps ?
La nature.
La nature, ouais. Pardon ? Oui, ah oui, 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 absolument. Hein. On voit qu'il y a des feuilles qui sont. Vous voyez, la précision va jusqu'à. Elle n'a pas fait des feuilles impeccables. Non, les petites choses qui se fanent sont montrées, les petits bulbons sur les feuilles. Enfin, vraiment, c'est d'une précision totale. Hein. Quel est donc le. Pourquoi cette précision ? Elle a une dimension décorative, mais peut-être une autre aussi. Pardon ? Comme une vanité. Alors, c'est vrai, il y a aussi, vous avez raison, il y a cette dimension encyclopédique. Hein. On est au XVIIIe siècle, on commence à épingler, pensez à Buffon, à Daubenton, on épingle chaque caillou, pierre, élément, pour dire c'est telle chose, on lui donne un nom latin, on fait des catégories. Oui, on est effectivement dans ce moment-là.
Oui, mais alors, l'œillet qui est vraiment tête en bas, qui est tombé, ça veut peut-être dire quelque chose.
Alors, il y a peut-être effectivement aussi là-dedans. Une volonté symbolique, hein. En particulier effectivement l'œillet tombé.
Oui, mais c'est la même branche.
Cela dit, on va au XVIIIe siècle un peu, comment dire, s'éloigner de cette idée très très symbolique de la nature morte, qui continue à exister, hein, mais avec moins de pathos qu'au XVIIe. Hein. Au XVIIe siècle, pensez à certains artistes comme Lubin Bogin, dont on a peut-être parlé certaines fois, hein, où il y a vraiment une volonté de présenter des fleurs et autres qui ont un sens très, très profond, mystique souvent. Là, on est effectivement plus dans un décor. Non, peut-être ce sur quoi il faudrait insister, mais vous l'avez dit quelque part, c'est le côté très précis, mais également le côté virtuose. Parce que faire un truc comme ça, c'est pas évident. On est là devant une œuvre qui est d'une virtuosité inouïe. C'est-à-dire chez quelqu'un qui vraiment s'est fait sa spécialité de ce genre de choses. Et on est là devant un peintre qui vraiment est capable de rendre la nature et le début de décomposition de la nature de manière absolument parfaite. On est là dans quelque chose qui est presque ultra-photographique avant même l'invention de cet art. Donc l'idée aussi... on collectionnait ce genre de tableaux, bien sûr, parce que c'est toujours joli au-dessus d'un buffet, si j'ose dire, hein, mais aussi pour montrer l'extraordinaire capacité virtuose, hein, l'incroyable possibilité de certains ou de certaines à rendre la nature plus vraie qu'elle n'est. Mais ça, rappelez-vous, c'est une des bases de la peinture. Vous vous rappelez de l'histoire de Zeuxis, dont je vous ai déjà parlé, hein, ce peintre grec qui fait des tableaux, qui fait un jour hein, des grappes de raisin sur son tableau, tellement bien que les oiseaux vont venir vouloir le picorer, n'est-ce pas, hein. C'est une des bases du tréfonds de la peinture européenne, ça. Notre peinture est basée sur certains de ces mythes, dont celui-là. Donc quand cet artiste réalise, elle s'appelle Rachel Greusch, quand elle réalise ce genre d'œuvre, c'est aussi pour être le nouveau Xuxis, si vous voulez. Et elle a d'ailleurs d'autant plus intérêt à le faire qu'elle est une femme, précisément. Hein. Parce qu'il y a des peintres hommes, hein. Je pense à Huizum, par exemple, qui font des œuvres comme ça à la même époque. Hein. Mais elle, elle a d'autant plus de fait, n'essaie de le faire que précisément elle a un statut de femme qui fait que c'est moins simple. Hein. Et bien si, elle revendique elle aussi sa capacité à être l'égale de Zeuxis, elle est un peintre femme, et alors elle, elle est aussi, aussi capable que les hommes, si vous voulez. Il hein. y a aussi ça derrière, la virtuosité. Hein. Son nom, c'est donc Rachel Reusch. Je ne suis pas sûr de la prononciation néerlandaise, mais ça doit être quelque chose comme ça. Hein. Donc Rachel Reusch, qui est une naturmortiste fleuriste, hein, dont vous avez ici une très belle, très belle, très belle exemple. Deuxième œuvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, oui, on pourrait appeler ça la leçon de peinture, quelque part. Hein.
Elle pose en même temps qu'elle peint.
Voilà, il y a effectivement une femme au centre qui a l'air de poser en même temps qu'elle peint. Elle est effectivement avec ses instruments en main, elle a son tableau devant elle, oui. Qu'est-ce que ça nous dit sur la peinture de cette période? On est au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça?
La femme peut enseigner la peinture.
Voilà. Hein, y a l'idée que la femme peut enseigner la peinture. Hein. Ça a l'air tout bête aujourd'hui, ça n'est pas forcément à l'époque. Hein. La femme peut... D'abord, elle peut être peintre. Et en plus, elle peut enseigner la peinture.
Hein. Donc, il y a une fille.
Pardon?
Elle enseigne une fille.
Elle enseigne une fille. Oui, ça, c'est... Ça reste quand même un classique. Hein. Oui. Absolument. Hein. Donc, la femme est peintre, elle enseigne la peinture... J'allais dire, mais à une fille, c'est pas que ce soit bien dans le... Mais, voilà, plus difficile d'enseigner à un garçon. Hein. Absolument. Donc, il y a quelque chose qui parle d'une sorte de nouveau statut, d'évolution, en tout cas, du statut. Bon, Artemisia et les autres, hein, et d'ailleurs, depuis l'Antiquité, nous ont bien montré, rappelez-vous, hein, que des femmes peintes, ça ne date pas d'hier. Hein. C'est-à-dire, on a vu aussi que ce n'était pas si simple. Hein. Et bien, avec les Lumières, c'est-à-dire, en particulier en France... le statut de la femme, et notamment de la femme peintre, évolue. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne va pas non plus être définitif, hein, le 19e va quand même un petit peu recouper ses velléités de liberté, hein, mais quand même. Pardon ? Voilà, c'est un tableau d'une femme qui s'appelle Marie-Victoire Lemoine. Alors, évidemment, on peut peut-être voir dans cette œuvre l'autoportrait de Marie-Victoire Lemoine, mais c'est pas sûr. Hein. En tout cas, c'est un intérieur d'atelier avec une femme peintre. Voilà. Et ça, qu'est-ce que nous dit une peinture telle que celle-là, qui est donc une œuvre d'une femme peintre du 18e
siècle? Très intimiste.
Quoi? De l'époque, de l'évolution, des thèmes, etc.
Très intimiste.
Très intimiste, oui. Ça, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, ou ce qu'on va voir après, mais que vous avez déjà vu dans le diaporama rapide du départ, c'est une scène qui tranche...
Ah ben oui, c'est...
Très apaisée. Pardon ? Un milieu simple. Hein, un milieu simple. On n'est vraiment pas du tout dans une grande scène mythologique avec quelques héroïnes bibliques, pas non plus devant une scène d'histoire avec des figures royales ou que sais-je encore. On est devant une dame qui appartient à une modeste bourgeoisie qui est en train de recoudre une chaussette. Enfin, peut-être pas une chaussette, mais quelque chose.
Elle est renvoyée
à sa condition de femme.
Alors voilà, en plus, ça. Hein, donc il y a deux choses. Hein. C'est quelque part quelque chose qui montre, en effet, qui prend acte d'une condition féminine, hein, d'une part, et quelque chose qui montre aussi une sorte de pittoresque de la simplicité du monde, enfin, hein, ou du monde simple, plus exactement. Bien. C'est des choses qui... Ce type de représentation vous rappelle d'autres peintres contemporains ou d'autres peintres plus tardifs? Pardon?
Chardin.
Oui, Chardin. Hein. Chardin.
Mais ça ressemble bien que au portrait de Madame Nonotte. C'est le même état.
Oui, c'est le même état d'esprit. Vous vous rappelez Madame Nonotte qui est en train de bouquiner, hein, on a vu ça dans le... Voilà. C'est le même état d'esprit. C'est-à-dire, on est dans une... Madame Nonotte, c'était peut-être un peu plus coquet. Hein, mais bon, là, c'est la même idée. C'est très paisible. On est dans un intérieur. Et effectivement, ça fait penser à Chardin. Vous connaissez, hein, c'est à vous de Chardin, qui représente des femmes, la laitière, etc. Hein, vous connaissez ça, hein. On est vraiment dans cette idée-là. Par parenthèse, c'est également des peintres qui vont s'inspirer de quoi? Parce que Chardin est contemporain de Madame Duparc, qui a fait le tableau que vous voyez là. Hein. Et Chardin, comme Madame Duparc, se sont inspirés de quoi? Où est-ce qu'ils ont pris cette inspiration de pittoresque, simple, serein? Pardon ? Flandre, Flandre et Hollande, absolument. Hein. C'est les Hollandais, la peinture de genre flamande et hollandaise, hein, qui est effectivement à la base de cet intérêt qu'un certain nombre d'artistes, en particulier français du XVIIIe siècle, ont eu pour la peinture de la vie quotidienne, dirons-nous. Hein. Voilà. Alors, voilà. Françoise Duparc, c'est donc son nom. Est-ce que d'ailleurs vous avez une idée aussi d'artistes qui, après elle, et dans le siècle postérieur, vont reprendre un peu ce flambeau-là? Je pense à un en particulier.
Homme ou femme?
Homme. Je ne vois pas de...
Au 19e?
Oui. Je pense à un artiste français du 19e siècle qui va vraiment reprendre ce flambeau d'une peinture réaliste, intimiste...
Alors Millet, peut-être.
Millet, Jean-François Millet. Millet est quelqu'un qui va effectivement reprendre ça et qui fera, je pense à une couseuse, Jean-François Millet, qui est ça, sauf que le costume n'est pas le même, enfin le vêtement n'est pas le même. Donc Françoise Duparc. Quid ? Ça, c'est un autre répertoire. Hein.
Oui.
Alors vous caractériseriez cela comment ? D'abord, est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe? Pardon? La descente de croix. Ça fait un peu penser à ça. Bon, il n'est pas très troué, le monsieur. Hein. Donc, je pense. Hein. C'est pas ça.
Ça, c'est un mort, de toute façon.
Alors. Il y a quelqu'un qui est mort, forcément mort, vous pensez?
Mourant.
Très mal. Ou bien endormi. Hein. Oh c'est soit. Vous allez voir. Alors, voilà. Il y a ça. C'est-à-dire que soit c'est un homme mort au premier plan, soit c'est un homme endormi, soit c'est un homme... qui a une drôle de position et que la dame derrière croit mort alors qu'il ne l'est pas. Hein, voilà. Et puis qu'est-ce que vous voyez d'autre? Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a une troisième personne, là-bas dans le coin droit. Voilà. Alors qu'est-ce que ça peut être que cette scène? Bizarre. Effectivement.
Non, hein, c'est pas
un son. Non. Enfin, le monsieur est peut-être en train de songer. Peut-être plus pour très longtemps, d'ailleurs.
Elle a l'air d'être en prière.
Oui, elle a l'air de convoquer le ciel. On se demande si elle ne rend pas au ciel de lui fournir des forces. Pourquoi faire? Peut-être. Ce serait qui, alors? Et ben voilà. C'est peut-être Holoferne avec Judith qui se dit bon, il faudra que je coupe la tête, c'est quand même pas très marrant, donc Dieu aide-moi. Quoi, hein, voilà. C'est le titre qui est donné à ce tableau. Hein. Ce tableau, vous pouvez voir à Venise, à l'Académie, s'appelle Judith et Holoferne. Pour ma part, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Je ne suis pas certain à 100% quand même de ça, précisément pour les questions que vous avez dites. Holoferne est généralement représenté comme un général, il a souvent une barbe, etc. Là, il me paraît étonnamment juvénile. Et puis, je trouve, vous l'avez trouvé tout à l'heure, que c'est Holoferne. D'abord, on n'a pas l'impression qu'il est tellement dans un lit. Enfin, on ne sait pas trop, mais ce n'est pas très évident. On devine une vague couverture, peut-être, mais on n'est pas très sûr. Et puis surtout, pour quelqu'un qui dort, on peut dormir dans toutes les positions, mais je le trouve très contourné. D'ailleurs, certains d'entre vous ont dit « Ah, oh, mais il est peut-être mort ou en train d'eux, etc. » Et pour ma part, mais j'en suis pas sûr, je me demande s'il pourrait pas s'agir de Saint-Sébastien. Vous savez, Saint-Sébastien soigné par Irène.
Ah oui, mais il y aurait des traces de flèches.
Alors, il y aurait des traces de flèches. C'est ça le problème, mais on n'a pas. Alors, quelque part, c'est Saint-Sébastien, il en a pas reçu des tonnes. Je vois, il y a une flèche, il peut être s'agiter comme un hérisson, comme disent la légende dorée, d'ailleurs. Ou quelquefois, on a des peintures où il n'y a presque rien. Hein. Or, là, il est caché par un voile, donc peut-être qu'il a une flèche dans le ventre, et puis c'est réel, d'autant que je vous rappelle qu'il n'en est pas mort. Hein. C'est que Saint-Gébastien n'est pas mort par la sagitation. Hein. Il a été justement soigné par Irène, que l'on a appelé d'ailleurs faussement Sainte Irène, avec sa servante, hein, et qu'il a remis tout à fait en selle, et après, il a été de nouveau très bien, il a de nouveau été prêché à bonne parole, et puis on l'a décapité, et là, il est mort. Donc, Saint-Gébastien n'est pas mort de sa sagitation. Ça y a aussi d'autres possibilités. Par exemple, il y a un drame antique qui parle, alors les noms m'échappent à l'instant où je vais vous le dire, d'une femme qui est amoureuse d'un homme, et à un moment, l'homme... pour des raisons d'ailleurs que j'ai oublié en vous les disant, décidément, tombe dans une sorte de coma, si vous voulez, mais il n'est pas mort. Et la femme vient le voir et croyant qu'il est mort, elle va se suicider.
C'est
Juliette. Oui, c'est un peu Roméo et Juliette. Hein. Et lui va se réveiller, voir qu'elle est morte et va se suicider à son tour. Enfin, c'est très très gai. Voilà. Je crois que c'est Pyramitis B. Mais je ne pense pas que ce soit ça, parce qu'il y a un troisième personnage dont je ne vois pas du tout ce qu'il ferait là. Hein. Alors, en tout cas, le nom habituel de ce tableau, c'est, encore une fois, Judith et Holofernes. Moi, ça me surprend un peu, mais...
Oui, parce qu'il n'y a pas d'armes.
Ben oui, alors peut-être que la servante a un grand sabre qu'elle va passer à Judith pour qu'elle fasse son travail. Hein.
C'est pas très loin de ça, ça.
Ouais. Oui, là ce serait assez simple, oui. Ouais. Voilà. Vous avez une idée de qui pourrait avoir. Je ne demande pas le nom de la peintre, que peut-être vous ne connaissez pas pour l'instant, mais est-ce que vous avez une idée en tout cas du lieu où ça peut être réalisé? En Italie, oui. C'est italien, hein, absolument, c'est italien. Qu'est-ce qui vous dit justement ce côté italien de cette œuvre-là?
Mais le tragique.
Le tragique, oui.
Des restes un peu caravagesques.
Des restes un peu caravagesques, effectivement. Hein. Après tout, vous froncez un peu les yeux, vous êtes devant Artemisia, là. Hein. On a le clair-obscur, etc., le dramatique qui sied à la peinture italienne, hein. Une sorte de baroquisme tardif, effectivement. Hein. Voilà. Alors, c'est dû à une femme qui s'appelle Giulia Lama. Hein. Giulia Lama est une artiste vénitienne qui est très proche, d'ailleurs, d'un peintre vénitien du temps, qui s'appelle Piazzetta. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous montrerai sans doute une œuvre de lui la fois prochaine. Voilà, Giulia Lama est donc une artiste, une peintre, hein, importante pour la Venise du XVIIIe siècle. Et ça
Peinture ou pastel?
À votre avis.
C'est
un pastel. Effectivement, c'est un pastel. Hein. Alors, on peint en pastel, mais c'est un pastel, effectivement.
Rosalba?
C'est Rosalba. Hein. Donc, c'est peut-être la plus célèbre, hors de France en tout cas, des femmes peintres du XVIIIe siècle, qui s'appelle Rosalba.
Carriera.
Son prénom, son nom, c'est Carriera. Mais au XVIIIe siècle, on l'appelait, entre Happy Few, la Rosalba. Hein. Et là, vous aviez tout dit. C'est quelqu'un d'important, Rosalba Carriera, parce que, je vous en avais dit un mot la dernière fois, c'est vraiment elle qui va, car elle a été invitée dans toutes les cours européennes, hein, qui va vraiment faire passer l'art du pastel dans l'Europe du temps. Hein. Elle est un peu l'ambassadrice du pastel. Quelqu'un comme Maurice Quentin de la Tour lui doit beaucoup, hein, en ce sens. Hein. Voilà. Donc c'est un peu l'initiatrice de cette technique qu'elle a menée à des sommets que... quelques grands artistes hommes seront atteints, hein, comme justement Maurice Quentin de la Tour. Qu'est-ce que vous diriez de cette œuvre? Là aussi, qu'est-ce qu'elle nous dit?
Elle tient un masque de carnaval.
Elle tient un masque.
C'est Venise.
Un masque de carnaval, c'est Venise. Hein. Et puis quoi d'autre encore?
Un pourriant.
Pardon?
Un pourriantalisme.
Oui, tout à fait, tout à fait. Hein. Et même quoi?
La plume.
Oui, alors il y a effectivement la plume. Alors c'est un Orient, mais quel Orient? Turc, hein, Turc. On est au Proche-Orient. Vous savez qu'il y a plusieurs Orients hein, dans l'Occident du 18e. Hein. On a parlé de la Chine un peu plus loin il y a quelque temps. Hein. Là, on est effectivement en Turquie. Hein. Donc on est là devant quelques sultanes, quelques étaïrs. Enfin, on est en Turquie et l'aigrette qui est là sur cette sorte de turban. Mais également cette robe hein, qui est artistement négligée. Hein. Mais les faux négligés, c'est très à la mode au 18e. Hein. Il faut avoir l'air négligé alors qu'on n'est pas du tout. Ça, c'est le summum de la...
Depuis quand ils ont commencé à utiliser le pastel ?
Oh, on trouve ça très tôt. Hein. On a, dès le XVIe siècle, hein, des éléments au pastel. Hein. On a même, dès la fin du XVe... Enfin, disons que c'est la Renaissance hein, qui va vraiment voir le début du travail au pastel. On a des artistes comme Correggio, hein, qui, au XVIe siècle, en Italie, utilise le pastel. Hein. On a pu voir, quand on avait travaillé là-dessus, des artistes même allemands, hein, de la fin du XVe, début du XVIe, utilisaient ça aussi. C'est donc tôt.
Mais c'est peut-être la fragilité qui en a fait disparaître.
Ben certainement, certainement. Parce qu'effectivement, le pastel, si c'est, surtout c'est pas fixé, c'est fragile. Voilà, donc une très belle œuvre de Rosalba Carriera, qui effectivement représente une personne, Felicita Sartori, mais en sultane. Bon, vous parliez du carnaval de Venise, mais Rosalba est originaire de Venise. Hein.
Ah oui.
Oh zut.
Raté.
Est-ce que je l'ai ? Non. Voilà. Ça m'arrive parfois. Raté. Mais après tout, ça ne dit pas tout. J'ai pourtant vérifié plusieurs fois. Bref. Donc là, vous savez déjà ce qu'il en est. Mais après tout, ça ne dit pas grand-chose. Alors que voyez-vous ?
Alors, Madame Adélaïde, c'est déjà une fille de Louis XV.
Voilà, une des filles de Louis XV.
Une des aînées.
Ouais. Pardon. Alors, il y a effectivement un médaillon. Qu'est-ce que vous voyez dans le médaillon ?
Deux
personnages.
Non, trois.
Trois personnages. Dans le médaillon, il y a trois profils.
Alors, c'est Louis XVI, Marie-Antoinette et le dauphin.
Alors, Louis XV.
Louis XVI. Bah, 1803, c'est possible.
Elle meurt en 1803.
Ah. Oui, mais en 1780. Ah ben non, il n'est pas mort encore. C'est pas vrai.
Bah, alors c'est Louis XV.
Louis XV. Et puis après. Sa femme, c'est qui ?
Marie-Lesinska.
Louis XV, Marie-Lesinska, et puis le troisième.
Ben, le dauphin, quand même.
Le dauphin. Hein, mais qui va mourir, vous le savez. Et voilà, hein. Donc, effectivement, c'est Madame Adélaïde avec papa, maman, pour être honnête. Hein, voilà, hein. Et qu'est-ce que dit d'autre ce tableau-là ? Qu'est-ce que vous voyez d'autre dans ce tableau en question ? Effectivement, elle est là avec le portrait de. Enfin, avec des portraits familiaux, mais.
Mais qui sont morts.
Comment d'ailleurs ?
Ils sont déjà morts, ceux du.
Oui.
Il y a un chiffon, on dirait qu'elle.
Il y a le voile noir.
Oui, absolument. Ouais. Il y a le voile noir, ouais. Du deuil. Hein. Mm-hmm. Et ils sont présentés comment d'ailleurs ? C'est pas indifférent. De profil. Mm-hmm. C'est-à-dire.
En médaille.
En médaille, hein. À l'antique. Hein. Ils sont couronnés de cette aura antique. Ils sont représentés à la romaine. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Qu'est-ce que nous dit d'autre ? Il y a des. Oui, vous voyez.
Un décor.
Il y a tout un décor. On sent qu'on est chez. La sœur de l'ancien roi, du roi précédent. Hein. Chez la fille, pardon, du roi précédent. Oui. Mais quoi d'autre encore ?
Cette couronne de
fleurs. Oh. Oui, elle a une coiffure assez développée. Ouais. Elle tient une sorte de mouchoir. Elle peint. Le portrait qu'elle a fait, c'est le portrait qu'il y a devant elle, c'est elle qui l'a fait. Hein. Elle a en fait ici, n'est-ce pas, un pinceau. Et alors, il y a une sorte d'ambiguïté avec ce tissu. dont on ne sait pas si c'est un attribut de la peinture qui a l'air de quand même d'être assez terminée. Enfin, elle a quand même... ou alors quelques tissus dans lesquels elle éponge, je ne sais pas, ses larmes. Elle aurait beaucoup de larmes.
Oui.
Voilà. Mais effectivement, elle peint. Et qu'est-ce que vous auriez à dire du... Vous avez remarqué les colonnes et le bas-relief. Vous auriez à en dire quelque chose?
La mode antiquisante de...
Alors, effectivement, là aussi, c'est très antiquisant. Hein. Après tout, on est en 87. Hein, la révolution se déclenche dans 2 ans. C'est quoi la grande mode à l'époque?
Pompéi.
C'est Pompéi. Et comment est-ce qu'on appelle ce courant artistique très à la mode dès avant la révolution? Non. Un courant artistique qui, évidemment, s'intéresse beaucoup à l'Antiquité, vous l'avez remarqué, colonnes, bas-reliefs. Un courant dont le peintre principal est sans doute David.
Le
néoclassicisme. On est à l'époque néoclassique, c'est-à-dire qu'on renoue à cette époque-là avec l'Antiquité et la grande tradition classique du XVIIe siècle, dont Nicolas Poussin, bien sûr. Donc on est là chez une artiste qui est aussi pétrie par cette mode néoclassique. Vous remarquez ce qui c'est dur de voir, mais vous avez quand même une petite idée de ce qui se passe dans le relief là-haut, ceux qui sont devant le voie peut-être.
Non.
C'est pas un char.
Il y a quelqu'un.
Il y a quelqu'un. Il y a quoi?
Un mort.
Alors on sait pas. Il est peut-être pas encore mort. En tout cas, le mort, il est dans quoi? Dans un lit. Hein. Alors, c'est un lit.
Non, c'est un lit, ouais.
C'est un lit, puis il y a des gens autour. Hein. Il y a un lit et des gens autour. Alors, le monsieur qui est dedans, il n'est pas mort. Hein. Il n'est peut-être pas très en forme, mais il n'est pas mort. Ça peut être quoi? Non. Alors, ça pourrait être, effectivement, sur relief, l'évocation de la mort de quelques figures, et pourquoi pas le roi Louis XV. Hein. Mais en fait, ça n'est pas ça. C'est une allusion à autre chose. Cette scène qui représente un homme dans un lit avec des gens autour qui sont là pour faire que la personne dans le lit aille un peu mieux. Ça peut se passer où?
À l'hôpital.
Voilà. Dans un hospice, dans un hôpital. Ça existe depuis le 15e. Hein. Pas en Bourgogne, on dirait l'inverse. Ça peut se passer durant la cour, mais c'est vrai que ça peut se passer dans un hôpital. Donc en fait, ce que vous avez là-haut, c'est une scène hospitalière. Hein, un homme dans un lit et des médecins autour qui s'affairent pour soigner, n'est-ce pas, cet homme qui est dans le lit. Pourquoi, à votre avis, une scène hospitalière au-dessus de Madame Adélaïde? Voilà. Hein, Madame Adélaïde avait... Alors, je ne sais plus quel est le lieu précisément qu'elle a mécéné, mais mécéné la création et le développement d'un hôpital. Et c'est donc ce mécénat-là, si j'ose dire, hein, ces bonnes œuvres-là, il hein, n'y a pas que Nicolas Hulot au 15e hein, qui crée des hôpitaux, hein, ça s'est fait plus tard, hein, qui est évoqué là. Et là aussi, parce que ça, vous ne le voyez pas, mais là, il y a une feuille savamment roulée, déroulée. Elle est suffisamment déroulée, mais ça, vous ne pouvez pas le voir, moi non plus d'ailleurs. Il y a marqué dessus le nom de l'hôpital qu'elle a, n'est-ce pas, fait réaliser avec ses propres deniers. Hein, voilà. Vous voyez, c'est un tableau qui vraiment dit beaucoup de choses. Ce n'est pas simplement la fille du roi précédent qui est là et qui pose avec une jolie coiffure. Elle est là. Le tableau dit beaucoup de choses de sa famille. Ça. Il y a d'ailleurs toute une inscription qui dit quelque chose sur le médaillon, hein, disant « je vous oublierai jamais » ou un truc comme ça. Enfin bref. Donc il y a une espèce de dévotion familiale. Hein. Madame Adélaïde était très très proche de son père Louis XV. Mais il y a également quelque chose qui montre à la fois le talent du prince, hein, c'est une princesse après tout, hein, et un prince se doit d'avoir du talent, d'être peintre, d'être musicien, d'être écrivain, que sais-je encore, mais également la générosité de la dite princesse. Hein. Vous voyez, c'est un tableau qui dit beaucoup de choses, c'est pas que une femme posant, hein, on est là devant tout autre chose.
Ah mais c'est celui à quatre mains là.
Voilà, c'est effectivement celui à quatre mains dont on avait parlé tout à fait au départ, vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez d'ailleurs de qui a fait ce tableau? Commençons par là. Alors Fragonard, pour sa belle... deux des mains.
Et sa belle-sœur. Et sa belle-sœur.
Et sa belle-sœur, qui s'appelle Madame Gérard, hein, Marguerite Gérard. Hein. Vous connaissez le nom de ce tableau ? Le baiser
volé
à la dérobée. C'est presque le baiser volé, mais c'est le baiser à la dérobée. Le baiser à la dérobée. Hein. Effectivement. Hein. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs précisément ? Eh bien.
Il y a une porte entrouverte.
Voilà, alors oui, parce que, bon, il y a un jeune garçon qui est en train d'embrasser une jeune fille. D'accord, c'est le titre du tableau, mais là,
il y a
du monde là. C'est pas des voyeurs.
Non,
c'est pas des voyeurs.
Ils sont échappés.
Voilà, c'est plutôt eux qui se cachent. Là, vous devinez quelque chose ?
Il y a trois personnages.
Oui, on voit trois personnages. On les devine peut-être autour d'une table, comme si l'on jouait dans la pièce d'à côté. Et furtivement, n'est-ce pas, avant que cette charmante jeune fille aille rejoindre la table de jeu, il y a un galant qui lui vole un baiser, n'est-ce pas, hein. C'est un baiser à la dérobée. Donc on voit bien, n'est-ce pas, le petit pincement qu'il y a. Est-ce que quelqu'un va arriver dans la salle et voir l'affaire, ou que sais-je encore ? C'est un baiser à la dérobée, n'est-ce pas ? Bon, vous connaissez le tableau de Fragonard que l'on met souvent en parallèle de celui-ci. Voilà, Véro, qui est un tableau avec une charge érotique un peu plus costaud, si je veux dire, que celui-là. Là, on est dans, encore, une joliesse toute innocente, hein, ou presque. Et je ne sais pas de quoi vous rapprocheriez ça. Qu'est-ce que ça nous dit du temps, de l'artiste, du 18e ? Qu'est-ce qu'on aurait à dire là-dessus ? Je ne sais pas s'il y a est-ce qu'il y a d'autres. On a parlé peinture, mais d'autres œuvres du 18e qui peut-être vous rappelleraient. Pardon. Oui, alors Watteau, c'est. Là, on est tard. Watteau, c'est tôt. Hein. Chez Watteau, il y a une dimension plus. Comment vous dire ? Bon, encore une fois, Watteau est mort très tôt. Hein. C'est un peintre de l'époque de Louis XIV, Watteau, finalement. Hein. Et puis il y a aussi toujours une sorte de tristesse un peu mélancolique. Chez Watteau, on est toujours à la fin de la fête. Il y a toujours une fille toute seule qui n'a pas de fiancé. Il y a toujours la pluie qui vient de tomber ou qui ne va pas tarder. Enfin, voilà, Watteau, c'est une espèce de joyeuseté, mais un peu poussive. Enfin, on est toujours dans des choses un peu marronnasses au grisouille, un peu verdâtre. Enfin, voilà, on sent, c'est tout le génie de ce maître, d'ailleurs. Hein. Que d'avoir douché une espèce de joie juvénile par quelque chose qui ne fonctionne pas. Watteau, c'est ça. C'est une joie pas tout à fait aboutie. Quoi. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus piquant, hein. Mais d'un peu pervers aussi. Hein. Voilà, on peut penser à Marivaux. On peut penser un peu plus piquant à Chauderlot de la Clos, hein, pour les ondes dangereuses, un sublime chef-d'œuvre d'un personnage que vous connaissez. Enfin, on est vraiment effectivement dans cette ambiance-là. Hein. Donc voilà, Marguerite Gérard et Jean-Noré Fragonard. Ça rappelle le premier. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'équivalent entre ça et le premier ? Voilà, la précision. Bon, d'abord, c'est une nature morte dans les deux cas. Hein. Oui, oui. Mais effectivement, c'est l'idée de la précision. Et l'idée, au-delà de la précision...
Mais il y a l'évocation de la mer.
Alors, il y a l'évocation de la mer.
Du sous-marin, même.
Hein. Là, on est vraiment dans des fonds marins. Hein. Donc, c'est toujours notre histoire d'histoire naturelle. Hein. Après tout, s'intéresser à cette espèce de coraux qui, alors, jusqu'à maintenant, ça ne passionnait pas grand monde. Hein. Voilà. C'est, à mon avis, d'ailleurs, enfin, à ma connaissance, hein, la première fois qu'on présente ce genre de choses.
Cabinet de curiosité.
Il y a un côté cabinet de curiosité. Hein. Et puis, il y a toujours cette espèce de virtuosité, encore une fois. Hein. C'est-à-dire qu'on est là devant quelque chose. En fait, c'est d'une artiste qui s'appelle... Anne-Marie Koster. Et Anne-Marie Koster est quelqu'un qui s'est spécialisé là-dedans, hein, qui a fait des tas de natures mortes extraordinairement virtuoses. C'est la Rachaïreuche française.
Oh, et des fleurs aussi.
Elle a fait des fleurs aussi, absolument. Oui. Et je vous ai montré l'autre jour un faux bas-relief. Vous vous rappelez peut-être de ça, hein. Oui. Je vous montrerai peut-être la fois prochaine. Hein. Enfin. Donc une nature morte de coquillages et de coraux. Ben, une sorte de plongeon naturel virtuose, hein, qui nous emmène dans les fonds marins. Quid ?
Ça doit être ça. Ce n'est pas un atelier de communication. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça pourrait être une allégorie de la chasse, vous disiez.
Une peau de
ah justement, je pense que c'est ça qui vous faisait dire. Hein. Elle a effectivement une peau de... C'est une panthère. Oui, ça doit être une panthère, ça. Ouais. Elle a une peau de panthère.
C'est pas une bacchante.
C'est une bacchante, absolument. Hein. Les bacchantes ont des peaux de panthère. Hein. Elles ont à peu près que ça. Hein. Donc c'est une bacchante. Hein. C'est une bacchante. Une bacchante, c'est quoi? Voilà, c'est une parente, c'est quelqu'un qui accompagne Bacchus, son nom de Bacchante, hein, avec les Ménades et autres Silènes. Elle fait partie du Thias, hein, c'est-à-dire de ce cortège du Thias Bachi qui accompagne Bacchus. Bien, très bien. Qu'est-ce que ça nous dit, cette Bacchante de l'art du XVIIIe siècle, des femmes peintes au XVIIIe et que sais-je encore?
Est-ce qu'elle fait partie d'un grand tableau?
Non, c'est le tableau complet, là. Ah, il y a un petit côté ingénu, hein. C'est un peu coquin. Mais les bacchantes sont assez coquines. C'est même leur métier. Oui, pardon.
C'est un côté fort ingénu.
Oui. Oui, c'est une bacchante, décidément. Et pourquoi présenter une bacchante? Je vous rappelle que c'est l'œuvre d'une peintre femme, hein, d'une femme peintre.
Côté libertin.
Côté libertin, l'amour, oui.
L'égalité. Oui.
Et finalement, ce sujet, avant même d'être une bacchante, c'est quoi? Enlevez-lui sa peau de léopard. Il n'est pas bien grosse, d'ailleurs. C'est un nu. Et un nu, c'est quoi?
Ah, c'était interdit aux femmes.
Tous les nus?
C'est pour ça.
Ah ben non. Pas tous.
Pas tous? Ça, c'est un nu quoi?
Mythologique, donc.
Mythologique, et puis surtout, ben voilà, un nu féminin. Présenter tes tout nus, c'est pas pareil que représenter une bacchante toute nue, ou avec une petite peau de léopard. Hein. Une femme représente une femme nue. Là, ça va. Qu'elle ne s'enquiert pas de représenter un homme nu. Vous avez remarqué quand même que certaines ne s'en privent pas. Vous vous rappelez de Julia Lam hein, tout à l'heure hein,
oui, voilà.
Donc il y aura des biais comme ça, on va y arriver. On en fait un Holoferme ou un Saint-Sébastien, et Artemisia Jamzinski s'en est pas privé. Hein. Mais on a parfois son quant à soi. D'ailleurs, l'auteur de ce tableau, c'est qui? Oh, une femme qui a dû un peu calculer pour... avoir la position qu'elle a eue. Femme importante, dont on a beaucoup parlé ces temps-ci.
Vigée-le-Brun.
Ce tableau est de Elisabeth Vigée-le-Brun. Hein. C'est un tableau qu'elle a présenté au salon, donc il fallait viser juste. C'est une bacchante d'Elisabeth Vigée-le-Brun. Donc vous voyez qu'elle montre là une académie, mais féminine. C'est moins scandaleux, beaucoup moins qu'une académie masculine. Hein. Et donc elle l'a travestie en bacchante, manière de faire une académie, mais en même temps lui donner un petit atour de peinture d'histoire, sans faire trop de scandale, mais un peu quand même, enfin, tout va bien. Il en reste deux. Ça et un autre. Une scène familiale. Une scène familiale?
Non.
À l'antique, tellement à l'antique qu'elle se passe dans l'antiquité, cette scène familiale. Romaine, est-ce que vous voyez ce qui se passe? Il y a des enfants. Alors, il y a une dame à droite qui, effectivement, tient un collier.
Les enfants sont habillés d'une façon...
Les enfants sont habillés comment?
Un peu en haillons.
Oh. Ils sont habillés simplement. Simplement. Effectivement, hein, ils n'ont pas, ils ont pas de beaux vêtements, ils sont habillés simplement. Alors c'est des enfants, ça tombaille un peu, mais vous savez comment sont les enfants. Oui, il y a des petites sandalettes. Hein. On est dans l'Antiquité, il fait beau. C'est la Rome antique. Très antique d'ailleurs.
Un enfant puni.
Puni ?
Le petit qui est puni.
Non, celui-là, vous voulez dire ?
Non.
Non, il est en train de jouer avec. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs là ?
Mais on ne voit pas.
Oh, on voit quelque chose ?
Non.
Oh, je pense que si.
Parce que vous le savez.
On voit mal. Oh, c'est une petite cassette à bijoux. D'ailleurs, l'autre est en train de tirer je ne sais quel collier, et elle l'a tiré pour le montrer à sa copine. Car parce que c'est deux copines qui discutent. Et qui l'une montre ses bijoux à l'autre. Et justement, qu'est-ce qui se passe ?
Les enfants veulent les prendre.
Alors, il y en a un qui joue avec, oui, mais de manière un peu badine.
Elle veut la rendre jalouse ?
Les deux enfants qui sont à gauche, à votre avis, qu'est-ce qu'ils font là dans la scène ? Qu'est-ce qu'il tient ? L'enfant de gauche, qu'est-ce qu'il tient ?
Un rouleau de papier.
Ça suggère quoi, ça ?
Une vente.
Voilà, l'école. En fait, il rentre de l'école. D'ailleurs, l'autre, vous le voyez, il est moins bien, mais il a, j'allais dire, sa petite trousse hein, qui est là. Il rentre tous les deux de l'école, sagement. Hein. Voilà. Cette scène ne vous dit rien ? Non ? C'est une scène très symbolique de l'histoire romaine. Alors, encore une fois, une histoire qui vient des tréfonds de l'histoire romaine. C'est un épisode qui s'appelle Cornélie, mère des Gracques. On est dans la famille des Gracques, hein, famille, j'allais dire, noble s'il en est, hein, de cette ancienne civilisation, de la civilisation romaine. Et cette histoire nous raconte comment un jour Cornélie, qui est donc la mère des Gracques, et là, chez une copine, hein, ou plutôt, elle est chez elle, mais elle a invité une amie, et son amie est là avec sa cachette à bijoux, et lui montre ses bijoux, lui montre ses colliers, ses perles, ses boucles d'oreilles, tout ça en or, etc. Et oh là là, regarde comme c'est joli, etc. Et Cornélie, elle, qui, si j'ose dire, est un peu, peut-être un peu agacée d'abord par cela, mais qui trouve ça surtout un peu futile, voit ses enfants arriver de l'école et dit à sa copine, ben, regarde mes trésors, c'est pas des colliers, etc., c'est mes enfants. Donc elle montre ses enfants à sa copine, et la copine est un peu interloquée, d'ailleurs, de dire, oui, je suis un peu futile. Hein. Très, très belle histoire, Cornélie, mère des Gracques, hein. Alors cette histoire a été super représentée, vous en verrez des milliers de tableaux. Hein. Au XVIIIe siècle en particulier, on a beaucoup représenté. Pourquoi est-ce qu'on présente ça ? Quelle est la raison pour laquelle cette histoire de Cornélie, mère des Gracques, va être représentée souvent ?
C'est moralisable.
Voilà, c'est de la vertu. Hein. C'est la morale. On est à la fin du XVIIIe, on en a assez de ces sujets futiles, de ces bacchantes que Mme Gilles Lebrun encore nous inflige. Il faut aller vers d'autres sujets, n'est-ce pas, plus grands. Eh bien, voilà. Hein. Et quoi d'autre que la Rome antique, la République romaine, par exemple, pour nous fournir de beaux et grands sujets. Hein. Celui-là en est un. Et c'est l'œuvre d'une femme originaire d'Autriche, qui s'appelle Angelika Kauffmann, qui a eu un rôle très, très, très important, précisément parce que, là aussi, quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans les cours européennes, et ça a été une ambassadrice du néoclassicisme. D'ailleurs, vous le voyez là, hein, là on est dans une scène antique, traitée à l'antique. Hein. C'est une sorte de David en jupon, si j'ose dire, hein, pour faire vite. Hein. On est là vraiment devant une scène néoclassique traitée de manière néoclassique. Hein. Voilà vraiment une œuvre. Donc, Angelika Kauffmann est en fait une des égéries en Europe, hein, pas seulement à Vienne hein, et en Autriche, une des égéries de l'art néoclassique dans l'Europe du temps. En plus, elle a été à Rome, elle y est morte. C'est vraiment une femme qui aura un rôle capital. Quand on allait à Rome et qu'on est un jeune artiste à la fin du XVIIIe, on va voir Angelika Kauffmann, hein, qui est une des femmes vraiment essentielles hein, pour cette innovation artistique du temps. Et puis, dernier tableau, je vais vous montrer. C'est quoi ça ?
Flore, peut-être.
Ça pourrait être Flore. Flore, simplement Flore. Pardon ? Pas Bacchus.
Elle a une coupe quand même.
Elle tient. Elle tient une coupe.
Il y a le pichet derrière.
Avec, oui, une... Oh, c'est même une... Oui, une très jolie cruche orfévrée. Hein. C'est unique... Alors, c'est sans doute une déesse. Alors, ça n'est pas Flore, même si elle a des fleurs. Quelle peut être cette déesse qui a une... C'est pas Vénus. Est-ce que c'est que une déesse ? Alors, il y a de ça. Et justement, quelle est une des... Déesse, c'est pas la plus connue, hein, qui évoque cette idée de la jeunesse.
Hébé.
Hébé, absolument. Hein, Hébé. Hébé est souvent représentée avec une coupe et une fiasque comme ça, parce que c'est elle qui servait le nectar des dieux, hein, notamment à son père Zeus. Elle est la fille, nous dit-on, de Zeus et d'Héra, de Jupiter et Junon. Si vous et donc elle leur servait à boire, hein, mais pas n'importe quelle boisson. Hein. Voilà, l'ambroisie. La boisson des dieux. Hein. Et elle est justement une Hébé est une divinité qui évoque l'idée de la jeunesse, etc. Et ce que vous voyez là, c'est bien sûr Hébé, mais c'est un portrait de femme en Hébé. Hein. Je vous passe ça d'ailleurs pour vous donner des idées. N'hésitez pas, si vous faites portraiturer, à vous faire portraiturer en divinité antique. C'est très très à la mode du XVIIIe siècle. Vous en avez ici un exemple. Hein. Voilà, et là, c'est dû à une femme qui, là aussi, a été très célèbre à l'époque, notamment en France. Elle est exposée au Salon, Madame Terbuche, qui est une des femmes importantes dans cette Europe picturale et féminine du temps. Donc, vous voyez que les femmes sortent de leur précaré. Hein. On l'a vu avec Angelica Hoffmann, avec Madame Terbuche. On l'avait vu avec Angelica Zantileschi, hein, tout à l'heure. Mais c'est encore plus vrai au XVIIIe siècle. Voilà ce premier débroussaillage que je voulais que nous fassions aujourd'hui. La fois prochaine, on reviendra un peu sur le 18e pour, comme aujourd'hui, hein, reprendre un peu ces artistes, mais à travers d'autres œuvres. La fois prochaine, maintenant que vous les avez toutes en tête, hein, nous reverrons d'autres œuvres de ces artistes, mais encore une fois, des œuvres différentes, mais que vous saurez reconnaître. Ce ne sera pas aussi facile qu'aujourd'hui. Alors, bonne semaine.